Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le comptoir du festival, festival de Cannes où nous nous trouvons avec les collègues et néanmoins amis Claire et Aubry. Bonsoir à tous les deux. Nous sommes donc en mode comptoir du festival pour quelques épisodes. Et après un premier consacré à des films qui traitaient plus ou moins directement de la question de la famille, eh bien aujourd'hui, c'est un tout nouveau thème qui va nous occuper après cette journée du... Quel jour sommes-nous ? 18 mai ? 19 ? 18 ? Merci. Après ce 18 mai où on n'aura toujours pas vu le yacht d'Arte, mais où on aura réussi à choper une séance en gala. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Alors, au programme de cet épisode, quatre films qui ont fait leur première au début du festival et qui, pour trois d'entre eux, sont déjà sortis dans les salles françaises. Dans les films dont on parlera aujourd'hui, et comme assez souvent dans cette première moitié de festival, on peut dire que ça sent l'artiste. Hein. Bien souvent, on a croisé des figures souvent bourgeoises, de créateurs et créatrices, et ça va de l'écrivaine incarnée par Mélanie Thierry dans La vie d'une femme, au couple de Gentle Monster, où Léa Seydoux joue une chanteuse et Laurence Rupp un cinéaste expérimental. On reparlera de ces deux films dans des contextes différents, parce que le métier d'artiste des personnages y est ou bien une forme d'impensé ou bien un thème secondaire, ce qui n'est pas le cas dans Autofiction, L'être aimé, Histoire parallèle et Fatherland, ou L'art, qu'on pourrait même écrire avec un A majuscule comme je le faisais en dissertation de philo en terminale, où l'art, donc, est plus frontalement le thème du film. Plus précisément encore, se pose dans ces films la question des potentialités de l'art, de leurs effets en acte dans le monde, sur trois modes différents. Si on veut prolonger la métaphore de la disserte de philo, on pourrait suivre cette question dans notre épisode, digne d'un sujet un peu bateau qu'on aurait d'ailleurs pu nous donner en terminale, l'art peut-il changer le monde ? Ainsi, les deux films espagnols du programme interrogent-ils dans un premier temps, pour faire une annonce de plan, la capacité du cinéma à réparer ou à abîmer les mondes intimes ? L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen prolonge la veine ouverte par Valeur sentimentale l'année dernière, comme beaucoup de critiques l'ont remarqué, avec Javier Bardem incarnant un cinéaste désireux de renouer avec sa fille à l'occasion du tournage de son nouveau film. Dans ce film, la réflexion sur l'art prend un tour métacinématographique dont Claire et Aubry vous parleront dans quelques instants. Almodovar dans Autofiction, film qui partage pas mal de traits avec le Sorogoyen, questionne pour sa part les bornes quasi morales que l'on peut poser à la création artistique lorsqu'elle s'apparente à une vampirisation de son entourage, avec une réflexion enchâssée sur un cinéaste à l'inspiration en berne et qui écrit un scénario à la limite de l'indécence en plongeant dans la douleur de ses proches pour trouver l'inspiration. Un même système d'enchâssement se trouve chez Asghar Farhadi qui donne aussi dans cette veine des puissances intimes de l'art avec ses histoires parallèles, quoique dans un registre très différent. Il s'agit plus là, et ce sera notre deuxième partie, de réparer la réalité de relations existantes, mais de fantasmer la dite réalité, de bouleverser la vie de parfaits inconnus par la force de la fiction qu'écrivent une romancière et le jeune homme qu'elle héberge. Plus de catharsis familiale, donc, mais un vertigineux jeu de miroirs et de faux-semblants fondé sur le versant paranoïaque des fictions et ouvrant un pan différent de la question d'un monde à changer. Le quatrième film de ce programme, Fatherland, s'intéresse pour sa part au côté plus politique de l'art et élargit l'horizon du changement avec un film en forme de biopic retraçant la traversée en 1949 d'une Allemagne fraîchement divisée par l'écrivain et prix Nobel Thomas Mann, accompagné de sa fille Erika. Dans un monde en ruine, l'art, la littérature et les discours de Thomas Mann peuvent-ils sauver les choses ? C'est une question posée par le film et sa réponse va vous surprendre. Et on commence avec le film « L'être aimé, El ser querido, The Beloved » de Rodrigo Sorogoyen, un film qui est sorti en salle donc en même temps que sa présentation au festival, que vous avez vu, chacun chacune, Aubry et Claire. pas moi. Je crois que je n'ai pas à le regretter, mais je vais vous le demander directement finalement. Est-ce que vous, vous avez été convaincu par ce film ?
Écoute, on va trancher dans le vif du sujet. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé le film. J'ai même plutôt détesté, dans la mesure assez simple, où en fait, je trouve que tout ce qui m'avait fait aimer Asbestas, qui était le dernier Rodrigo Sorogoyan, que j'avais pu découvrir en salle, à savoir de la tension, une écriture au cordeau, des personnages bien campés, etc. Bah en fait, je le retrouve pas du tout dans celui-ci. C'est-à-dire que, à la rigueur, le seul truc qu'on peut sauver, et je pense qu'on était plutôt d'accord là-dessus, c'est l'interprétation de Javier Bardem et de Victoria Luengo. Voilà, moi je trouve que c'est affreusement mal écrit, que c'est assez assez ronflant en termes de mise en scène, enfin il y a beaucoup d'effets pour pas grand chose, que le film ne raconte rien, voire que ce qu'il voudrait raconter est finalement assez contre-productif, mais on pourra y revenir. Et surtout c'est abominablement long, ça dure 2 heures mais est ressenti 2h40 pour un film qui finalement s'avère quand même très très pénible à regarder. Claire, je sais pas.
Oui, je suis entièrement d'accord et je suis un peu étonnée du nombre de critiques positives qu'il reçoit, parce que je trouve qu'en fait on s'ennuie, les acteurs sont super, comme tu l'as dit. En revanche, après, l'histoire, on s'en fiche un peu. Enfin, en fait, on suit un tournage du début jusqu'à la fin et on n'en a pas grand-chose à faire du tournage. Enfin, en tout cas, moi, personnellement. Et la relation entre le père et sa fille est finalement pas si intéressante que ça. Et j'ai envie de dire presque banale et assez commune, disons. Ça fait beaucoup penser à Sentimental Values de l'année dernière. Mais avec une forme de tendresse en moins et une espèce de volonté de critiquer la figure du réalisateur très très autoritaire voire toxique, en fait il n'en fait pas grand chose. L'acteur est très sympathique, donc en fait on est plutôt de son côté. Il y a une scène où on rigole un petit peu, mais en même temps elle est excessivement longue.
Enfin, c'est quasi du rire nerveux en fait, plus que du rire franc.
Et voilà, en fait, il n'y a pas de tension. La tension est inexistante et sur plus de 2 heures, bah, c'est très très long, en fait. Et en termes visuels, enfin, peut-être tu voulais revenir dessus après, il y a beaucoup d'effets qui sont... En fait, qu'on a du mal à suivre, je trouve, en tant que spectateur. Et on se perd très vite. Et en fait, ça devient presque plus... Sorogoyan qui veut se prouver des choses, enfin nous prouver des choses, et absolument pas servir l'histoire en fait.
Ouais, enfin complètement. Moi, je te rejoins sur tous les points. D'abord sur l'aspect narratif, le scénario. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. On commence à en avoir marre des films en compétition qui sont vraiment des clichés de films d'auteurs bourgeois qui systématiquement mettent en scène soit effectivement des personnages très bourgeois et en fait aux prises avec aucune forme de réalité concrète, soit cette espèce de tarte à la crème du cinéma d'auteur et du cinéma de festival qui consiste à représenter des artistes face au dilemme de leur œuvre et de la création, et en particulier à faire du cinéma qui filme du cinéma. Tu le disais, ça fait beaucoup penser à Sentimental Value. En fait, moi, je trouve que c'est le même scénario, en moins bien, parce que je trouve que... J'ai pu en parler l'année dernière à ce même micro, mais je trouve que Valeur Sentimentale avait au moins le mérite d'assumer sa posture ultra bourgeoise, arty, etc., pour mieux essayer de la corrompre par le mélo, la famille qui se décompose, etc. Alors qu'ici, en fait, on n'a rien de tout ça. Effectivement, le film se voudrait un peu critique de cette figure du réalisateur autoritaire qui en fait trop, et qui vraiment finit par juste être désagréable et toxique, comme tu l'as dit. Sauf qu'en fait, à la fois, on est complètement de son point de vue, parce que c'est lui qui raconte le film régulièrement en voix off, on est tout le temps avec lui. Et surtout, je trouve qu'en fait, même Sorogoyan, à la mise en scène, il est très complaisant avec ce personnage. Il lui colle beaucoup, et surtout, je trouve que même, en fait, dans tout ce que t'as dit sur le visuel et tous les effets que multiplient les mises en scène, au final, il rejoint un peu l'image qu'il voudrait critiquer du réalisateur qui se sait réalisateur, qui en fait des caisses. Je trouve ça un peu contre-productif. C'est un peu un but contre son camp, quoi. D'autant plus que, bon, sans entrer trop dans les détails, en fait, le film joue énormément sur les changements de format et d'aspect d'image. Donc, on change de format de cadre, on change de format de prise d'image entre pellicule et numérique. On change de la couleur noir et blanc aussi. Tout ça assez régulièrement. Et en fait, on finit par avoir l'impression que c'est juste gadget, que ça sert pas tellement des intérêts narratifs ou alors... Enfin, en fait, ça devient vraiment des formes de grosses facilités qui n'ont pas des masses d'utilité et que je trouve vraiment pas très fines ni intéressantes formellement parlant. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est vraiment un double raté et c'est vraiment pénible dans la mesure où le film insiste pendant 2 heures, quoi.
Oui, entièrement d'accord. Et en fait, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que... En fait, je crois que je regrette aussi que la relation... S'il avait voulu faire une sorte de sentimental values à l'espagnol, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut vraiment creuser la relation entre le père et la fille, ce qui, finalement, est assez superficiel. Et pareil, en fait, pour toute cette critique du réalisateur autoritaire, masculin, etc., comme ils ont pu un peu en parler en conférence de presse et compagnie, ça va pas assez loin. Enfin, je veux dire, il dépasse les bornes, plus ou moins, dans une scène. Autrement, en réalité... Enfin, je sais pas, mais il m'a pas paru particulièrement violent. Et donc, ça tourne un peu en rond, en fait. Et ça enchaîne les belles images, mais sans rien de plus.
C'est chiant, quoi.
Oui, voilà. Enfin, c'est long, c'est ennuyeux, et vous pouvez le passer.
Non, c'est clair. Et puis, il y a ce truc où, effectivement, on finit pour en avoir... très très vite rien à battre de ce film, de ce tournage, et encore plus grave de la relation entre le père et la fille, parce que alors en plus de cette impression de déjà vu, ça s'associe juste des clichés de relations parents enfants, enfin père-fille, des scènes franchement gênantes. Enfin, il y a une scène où ils s'engueulent parce que la fille a un peu bu avant, et franchement c'est lourd. Et surtout qu'en plus, je trouve qu'en fait le très très gros problème des ratés qu'on vient de mentionner, c'est qu'en fait c'est limite, ça s'ajoute au style de Soro Goyen, et l'opération là est vraiment pas bonne, parce qu'en gros le style de Soro Goyen, c'est c'est un cinéma qui mise beaucoup sur le dialogue, sur un dialogue généreux, des gros flots de paroles souvent débités assez rapidement, qui s'enchaînent assez vite et qui produisent très vite un effet ping-pong. C'est-à-dire que justement, c'est ce qui faisait toute la force d'Asbestas, c'est qu'en fait, il y avait des situations dramatiques et d'une tension folle qui se jouaient uniquement dans des dialogues où en fait chaque réplique était assénée comme un coup, voire comme un coup de fusil. Et là, en fait, on retrouve pas vraiment ça, dans le sens où on a quand même cette espèce de flot de paroles incessant, de soit des gens qui parlent tout le temps sans s'arrêter pendant des heures, soit qui s'énervent, en rajoutent des couches, etc. Mais ça marche jamais, c'est-à-dire qu'en fait, vu que ce qu'ils disent au fond n'est pas très intéressant, ni très bien écrit, ça produit juste un effet de longueur, de lassitude. Et en vrai, une des seules séquences qui marche vraiment bien dans le film, c'est la première, je pense, où on a un peu l'impression que ce schéma-là va fonctionner, où c'est juste vraiment, je sais pas, 10-15 minutes de discussion entre le père et la fille dans un resto et de retrouvailles. Et c'est vraiment un champ contre champ basique, et ça dure, ça se balance des répliques à la gueule très rapidement. Et même là, en fait, on va dire même là, la mise en scène fonctionne, parce que il va de plus en plus près dans le champ contre champ, on a quasiment plus que les yeux dans le cadre... ça fonctionne bien, sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est un peu comme pour Fulfill, en fait, au bout de 10-15 minutes, le film a déjà plus grand-chose à nous raconter, formellement ou narrativement, et du coup, on est un peu sur notre fin, quoi. Donc bon, ouais, comment dire, L'être aimé de Soro Goyen, franchement relou, beaucoup trop long, beaucoup trop vain, je trouve, et surtout, ça se prend vraiment pas pour de la merde. Donc ouais, moi j'ai franchement passé un très très mauvais moment, et ça serait vraiment pas une recommandation. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, toi.
Non, juste insister sur le fait que les acteurs, pour le coup, étaient super et que c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'en fait, même eux n'arrivent pas à sauver quoi que ce soit. Peut-être parce que c'est trop long, ça aurait été plus court, ça aurait été plus supportable, je pense. Mais voilà, donc quelle déception en fait.
Par la magie du montage, on quitte Cannes et on se retrouve soudainement à Lyon, hein, au studio de Transistor, pour ajouter à cet épisode où l'on ne devait parler que de trois films, le film de Pedro Almodovar qu'on a vu dans la deuxième semaine de festival, après avoir en fait enregistré sur L'être aimé, sur Histoire parallèle et sur Fatherland. Mais bon, difficile en effet de placer ailleurs notre débat critique sur cette nouvelle sortie du grand réalisateur espagnol, lauréat d'une flopée de prix tels qu'on n'ira pas la détailler ici, mais qui inclut des Oscars, des Goya, des Césars, le prix Lumière 2014, un Lion d'or il y a 2 ans, et 8 sélections à Cannes, dont 7 en compétition. À Cannes, dont ce grand réalisateur espagnol repart néanmoins systématiquement bredouille depuis 2006, et Volver, pour lequel il a remporté le prix du scénario. En 2026, cette 8e sélection donc n'a pas eu plus de chance que les autres et a quitté la croisette les mains vides. Enfin, pas si vide en soi, puisque Alberto Iglesias, le compositeur de la musique, est reparti avec le Cannes Soundtrack Award, qui récompense depuis 2012 la meilleure bande originale du festival, et c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il la remporte. Autofiction donc, ou en VO Amarga Navidad, ou Noël amer pour une traduction fidèle, rien à voir avec l'homme politique écologiste Noël Mamère, bref, je fais des vannes qui ont 20 ans elles aussi. Autofiction est un film qui, comme pas mal de ceux présentés à Cannes, en compétition ou non, traite de l'imbrication de la fiction et de la réalité, et de la moralité qu'il y a ou non à s'inspirer de sa vie et surtout de celle des siens pour écrire et pour créer. Le film commence donc par un premier récit à l'hiver 2004. Elsa est une réalisatrice de 2 films cultes, c'est-à-dire que personne n'a vu, comme elle l'explique, et qui gagne sa vie en tournant des publicités. Elle vit avec un pompier et stripteaseur plus jeune qu'elle, Bonifacio, et elle est véritablement très angoissée dans la vie ces temps-ci. Elle a plusieurs amis qui, entre divorce et dépression, ne vont elles non plus pas très bien. Et néanmoins, le mal-être de ses amis, avec lesquels elle passe pas mal de temps, notamment bon, à Madrid, mais aussi sur l'île volcanique et magnifique de Lanzarote, ce mal-être de ses amis l'inspire suffisamment pour qu'elle se mette à écrire un troisième film. Simplement, quand son entourage s'en rend compte, eh ben, ça ne passe pas. Mais cette première histoire s'inscrit en fait dans un récit cadre qui se passe quant à lui dans les années 2020. On découvre que l'histoire d'Elsa n'existe en fait pas et qu'elle est le fruit de l'imagination de Raoul, un réalisateur qui ressemble beaucoup sur un plan physique et créatif à Almodovar lui-même. Et de fait, Almodovar déclare que c'est dans ce film qu'il a été le plus cruel avec lui-même. Raoul, pour écrire son scénario, s'inspire des problèmes de son entourage, à commencer par ceux de Monica, son ancienne assistante, qui le prend évidemment très mal lorsqu'elle le découvre. En somme, Autofiction est une suite d'allers-retours, d'un scénario à un autre, d'une histoire à une autre, l'une qui n'existe doublement pas et l'autre qui n'existe qu'une fois pas si l'on se place dans le cadre de notre réalité à nous. Bref, pour un film gigogne où Elsa et Raoul, qui est aussi Pedro, bardé de références aux films précédents de Almodovar, que j'avouerais ne pas avoir vu et dont je ne connais en fait que les derniers longs métrages, à savoir Madres Paralelas et La Chambre d'à côté. Pièce parfaitement maîtrisée et d'une beauté remarquable, le film est à mon sens bon, loin d'être un chef-d'œuvre, mais loin d'être inintéressant pour autant. Derrière les marques omniprésentes à l'écran et une incontestable froideur, parfois regrettable au vu de la direction comique hilarante que le film prenait au début, quelques moments d'émotion pure percent au détour d'un regard et parviennent ainsi à être plus touchants que d'autres films de ce festival qui sentent l'artiste. Claire, c'était le film que tu ne voulais pas manquer avant de partir de Cannes. C'est le dernier que tu as vu d'ailleurs avant ton départ de la Croisette et du Palais des Festivals. Qu'est-ce que tu as pensé de cette autofiction ? Par ailleurs, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais assez proche de L'être aimé par plein d'aspects, que ce soit de son côté méta, son côté espagnol bien sûr, ou encore l'une de ses actrices, Victoria Luengo.
Alors oui, tout à fait, c'était le film que j'attendais tout particulièrement. Et je suis un peu frustrée, en fait, je crois, parce que je suis ravie de retrouver Almodovar, de retrouver les couleurs. Et je me suis dit, d'ailleurs, dès les premières secondes, le générique est trop bien. Et ça change de tous les autres films qu'on a pu voir, qui sont tout gris, tout tristoun. Quand bien même, ils sont super, mais là, enfin, on avait du rouge, du bleu. Enfin, c'est bête à dire, mais vraiment, ça faisait plaisir. Alors moi j'ai une séance un peu particulière, donc je pense que ça a aussi un peu joué, parce que donc le film s'est arrêté au bout de 5 minutes, et a repris bien 20 minutes plus tard. Bon, depuis le début, donc j'ai pu revoir une deuxième fois le début qui est vraiment super. Mais donc frustrant pour toutes ces raisons et puis frustrant tout simplement pour l'histoire, pour ce scénario. J'ai lu une critique de quelqu'un qui disait que dans ce film, Almodovar se justifiait plus qu'il ne proposait. Et en fait, je trouve ça hyper juste. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a dérangée. Mais c'est Almodovar, donc je lui pardonne un peu.
Bah, en vrai, moi, j'ai été plutôt content du film, j'avoue. Après, un peu comme toi, Louis, je suis très en dehors du cinéma d'Almodovar. Enfin, j'ai vu que Volver, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, je suis assez d'accord sur le constat que tu fais, que là, sur le côté... Almodovar se justifie, et en fait ça va avec le côté c'est vraiment un film de repli plus que de proposition, enfin de proposer des trucs neufs quoi, et où effectivement du coup je me dis que je loupe quand même pas mal de trucs du fait que juste je connais pas le cinéma d'Almodovar quoi. En revanche effectivement ça faisait du bien de voir de la couleur et vraiment de la couleur qui pète, qui explose, tout en étant vraiment, enfin c'est très 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 bien fait, et puis oui juste ce générique qui est, même la musique est pour le coup, la musique du générique est géniale. J'avoue que la musique du reste du film m'est un peu moins restée en tête, mais ouais, assez satisfait. Et puis surtout, comme tu le disais Louis, comment dire, par rapport à l'autre film espagnol, enfin un des autres films espagnols de la compétition qui était à l'être aimé, en fait ça fait du bien d'avoir un film maîtrisé qui sait ce qu'il fait, qui joue avec entre guillemets ses outils, ses cartes, etc., et qui cherche pas à se prendre pour ce qu'il n'est pas ou à multiplier les effets assez vains et insupportables. Donc ouais, c'est vraiment juste, ça faisait du bien de voir un film vraiment bien maîtrisé comme ça quoi. Enfin, même si bon, ça a pu me laisser un peu en dehors aussi sur d'autres aspects.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai été assez sensible au côté très joli. Hein. Enfin, on est d'accord tous les trois là-dessus. Donc, en dépit aussi de l'esthétique publicitaire que ça prend souvent, on pourra en reparler. Mais j'ai apprécié le côté ludique en fait de l'écriture du film, littéralement de l'écriture du film à l'écran même, puisque bon, c'est vraiment un effet qu'on peut trouver un peu facile, mais que j'aime bien aimer. Parce que les mots que tape Raoul sur son ordinateur, ils s'affichent en énorme, en rouge, comme s'il était en train de s'écrire sur l'écran, en surimpression des images de l'histoire qui se passe en 2004. Et ouais, moi je pense que j'ai été globalement assez sensible au travail formel qui est fait sur le passage d'un récit à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a pas de travail, justement. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui indique qu'on se passe en 2004 par rapport à 2026. Il n'y a pas de changement de format ou de qualité d'image, il n'y a pas de changement de décor, de direction, de vêtements. C'est exactement la même chose, et j'aime assez cette espèce de partage de l'espace fictionnel, en fait, en gros, entre le récit de 2004 et le récit de 2025-6. Parce que, voilà, le début des années 2000... C'est une espèce de fétichisation de quelques objets technologiques, que ce soit le CD, que ce soit le téléphone à touche, mais à un moment, il y a carrément une machine Nespresso dans l'arrière-plan de la villa à Lanzarote de Elsa. Donc, disons que je comprends tout à fait le côté vain qu'on peut y trouver, mais c'est effectivement tellement maîtrisé, tellement fort dans aussi la mise en scène, tout simplement, une plongée zénitale à un moment, donc une plongée vraiment verticale au-dessus des personnages qui sont donc Elsa, son amie, et le fils de son amie sur une plage noire de Lanzarote. Je sais pas comment exactement il a fait ça, mais c'est vraiment très 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 beau et très 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 fort, je trouve. Et globalement, la séquence à Lanzarote est peut-être celle qui a le plus d'émotions de tout le film. Et donc, qui fait que ce film, voilà, il y a un plaisir indubitable, je pense, à le voir, si on fait abstraction, et je comprends qu'on ne le fasse pas, de son côté un peu nombriliste, un peu vain, et surtout un peu ultra riche.
Ouais, surtout que pour le coup, vous disiez plaisir, etc., moi, je ne sais pas si je l'ai vraiment retrouvé, parce qu'en fait, quand bien même... En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le début, bon, voilà, mais après, en fait, c'est juste hyper frustrant, parce que tout ce qu'on aimait avec les couleurs, finalement, ça devient de la pub. Et l'histoire... Enfin, en fait, je sais pas, pour moi, vraiment, Almodovar, c'est des histoires dans lesquelles t'es plongé et tu te sens un peu proche des personnages. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec les personnages qui se passe. Et là, les actrices sont absolument superbes. Mais en fait, l'histoire, elle est pas là. Enfin, en fait, moi, personnellement, j'en avais mais rien à faire de ce qui allait se passer pour ce réalisateur, de savoir... Enfin, je comprenais pas pourquoi son associé, qui sait très bien comment fonctionne... une écriture artistique d'un coup s'énerver autant pour parce que ça s'était inspiré de sa vie et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Alors que en plus ça m'a beaucoup fait penser à Histoire parallèle que j'avais vu du coup le premier film que j'ai vu à Cannes. Et en fait, Histoire parallèle, là au moins on comprend les enjeux pour les personnages. Alors que là, je trouve que ça manque dans le sens où ouais, enfin on est vraiment très loin. Enfin, il y a cette espèce d'entre-soi très bourge, comme tu disais, très fermé, qui en plus est renforcé par cette pub qui est mais vraiment pour le coup un peu exagérée. Enfin, je veux dire que Saint-Laurent soutienne le film, c'est très bien. Que les personnages soient habillés de la tête aux pieds en Saint-Laurent, en Prada et en tout ce que vous voulez, ça suffit. Et du coup, les belles images deviennent presque des images de pub aussi, je trouve. Enfin là, le côté formel dont tu parlais, bah oui, mais du coup, il y a une espèce d'inspiration marketing un peu étonnante. Enfin voilà, enfin, en fait, c'est tout ça qui fait que c'est très frustrant, je trouve, quand on aime du Almodovar, de se retrouver face à ça à Cannes en dernière séance. Ouais, enfin je sais pas, ça laisse un petit goût... un peu amer, si je puis dire.
Moi, je vous rejoins tous les deux, surtout sur ce que tu viens de dire, Claire, sur le côté pub et image pub. Même, en fait, c'est plus que ça, genre même les images de Lanzarote, qui sont un peu les images waouh du film, en vrai, quand tu y repenses, il y a un côté très image, office de tourisme. Et en fait, ouais c'est ça. Et en fait, là où c'est gênant, c'est qu'effectivement, alors pour le coup, autant je connais pas le cinéma d'Almodovar, autant j'ai vu Volver qui a quasi 20 ans. Et il y a un truc dans Volver que je retrouve pas du tout dans celui-là, c'est le côté tangible, le côté... et comme tu dis, on est avec les personnages, mais plus que ça, en fait, on est avec les décors, on est avec les choses, on est avec juste le film, quoi. Et il n'y a pas une distance froide, pour prendre ton terme, Louis, qui se crée par cette image très lisse, très maîtrisée, très publicitaire. Et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, dans le film, ça se répercute avec le côté récit enchâssé, personnage Richou, finalement une histoire dont on se fout un peu, quoi. Et surtout, en plus, ce que perd, je trouve, le film là-dedans, c'est qu'il perd toute l'énergie de son début, qui est une énergie comique, même un rythme comique qui est assez emballant. Et en fait, le film juste s'enlise dans son récit enchâssé pour raconter totalement autre chose. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, ce début, où on est dans la fiction sans savoir que c'est une fiction, en fait, il est très Almodovar du coup, mais Almodovar d'avant. Il a un côté très concret qui, sinon par l'image, est au moins porté par ce rythme-là. Par l'écriture, pour le coup, c'est vraiment bien écrit. Mais voilà. Après, là où j'apporterai une nuance sur ce que tu as dit tout à l'heure, Louis, c'est sur genre, l'indifférenciation des deux récits, on va dire. Je trouve que justement, pour le coup, là où on a... Et je trouve que là, c'est mieux fait que chez Sorogoyen, typiquement. C'est que là où on n'a pas de gros trucs balourds, genre de changement de régime d'image ou quoi pour signifier le truc. En fait, il le fait beaucoup passer par la couleur et je trouve que ça, c'est assez chouette parce que malgré tout cet art un peu publicitaire qu'on a mentionné, en fait, disons que même avec ces matériaux-là, Almodovar, ça reste quand même quelqu'un qui fait de très beaux films de couleur juste et qui s'en sert brillamment. Donc, voilà.
Pour revenir sur un truc que tu viens de dire, Aubry, tu as dit... en parlant du film, du film qui se passe en 2004, que ça avait un côté très Almodovar d'avant. Et je pense que c'est ce que, par exemple, certains critiques ont pu trouver en parlant d'un côté testamentaire de ce film, que ce soit chez Fernando Gonzo des Cahiers, du cinéma, ou bien même Pierre Murat au Masque et la Plume. Mais qu'en fait, là où je trouve que, par exemple, La Chambre d'à côté, qui est vraiment un film que je crois que j'aime vraiment énormément, avait ce côté testamentaire. Bon, évidemment, il traitait de la mort, de l'euthanasie, donc ça aide. Mais avait ce côté testamentaire parce que les deux actrices avaient une connexion émotionnelle réelle entre elles, etc. etc. Là, on est plus sur un testament au sens vraiment document de notaire du terme, donc avec une liste, quoi, une liste de passages obligés, des faits de style, c'est-à-dire qu'on va avoir une soirée chez Rossi de Palma, on va avoir une scène de striptease quasiment intégrale, alors pas le striptease n'est pas intégral, mais la scène est dans son intégralité sur du Grace Jones, et sans aucune réelle justification, c'est-à-dire que là, je pense qu'il faut sentir la subjectivité de Raoul qui est en train d'écrire, puisque comme c'est le double d'Almodovar, il a beaucoup fait pour la représentation queer au cinéma à l'intérieur du film. Voilà. Mais voilà, il y a cet effet qui, bon, on retombe un peu sur ce qu'on disait, mais de froideur. Et notamment, moi, il y a une scène qui est symptomatique de ça. C'est une scène où donc Elsa est chez son amie. Une amie à elle qui est en train, enfin qui vient de voir que son mari était en train de la tromper à Paris, et elles écoutent un disque d'une chanson hyper belle, puissante, mélancolique, etc. Et elles sont en fait assises côte à côte. Il y a la musique derrière elles, enfin qui vient de la chaîne IFI derrière elles, et elles regardent plus ou moins. Il n'y a pas de regard caméra, mais elles regardent vers l'écran. Et j'ai eu vraiment le sentiment d'être de les regarder derrière une vitre en réalité à ce moment-là, alors que la scène fait tout pour être émouvante, ou pas d'ailleurs, je sais pas si cet effet de distanciation est voulu à ce point là mais vraiment j'ai eu le sentiment de regarder un film, de regarder une scène, et de pas du tout être dans la pièce avec elle en fait, et de sentir leur émotion, de moi-même être touché par la chanson, par les paroles qu'elles échangent, et voilà, c'est ça qui est quand même assez symptomatique de ce film, qui pourtant, c'est aussi parfois faire des choses un peu discrètement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où une jeune femme qui est en dépression et qui a perdu son fils regarde une petite fille au restaurant à Lanzarote juste être heureuse et jouer avec un jouet ou une peluche, je ne sais plus. Et la fille ne la regarde même pas, mais il y a un effet de chant contre chant qui est très fort, je trouve, qui est très émouvant.
Qui est mieux que tout le film de Sorgue.
Et pareil, je trouve que la discussion entre Raoul et son ancienne assistante au café à la fin a un côté un peu artificiel, mais que je trouve elle fonctionne très bien, parce que pour le coup là il y a une écriture et un jeu d'acteur et d'actrice qui est assez fort et qui porte le truc assez bien, et qui du coup me fait retomber sur la frustration que tu évoquais au début de ta prise par le
cadre. En fait c'est vraiment ça, c'est que il a son espèce de cadre Almodovar, je sais faire ça et je fais ça et c'est ça mon style, et il le fait très bien puisque c'est lui, mais en fait il y a pas ce truc en plus qu'on a pu avoir dans certains films. Soit parce que ça dit vraiment quelque chose qui touche à vraiment quelque chose d'intime, soit en fait là déjà en fait voilà, juste on n'est pas tous acteurs réalisateurs, donc déjà en fait avec ce genre d'histoire on est un pas, enfin on est déjà plus loin en fait, et là c'est redoublé par ce truc hyper bourgeois, par ce truc un peu froid, grande villa, hyper design, tout est maîtrisé machin, donc il n'y a rien qui dépasse, et en fait d'un point de vue émotion c'est assez compliqué de se sentir concerné. Et justement, la scène que t'évoquais, Louis, avec cette mère qui a perdu son enfant, là, justement, il y a quelque chose qui dépasse. La mère, elle est submergée par l'émotion. Et en plus, vraiment, les acteurs sont top. En fait, c'est juste hyper frustrant. Enfin, vraiment, je me répète, mais c'est vraiment agaçant. Et justement, par rapport à Histoire parallèle, en fait, je suis désolée, je fais beaucoup la comparaison, mais je trouve que les deux films se ressemblent. Enfin, c'est vraiment ce même principe de quelqu'un qui écrit, d'un côté pour un roman, de l'autre pour un film, mais bref, écrit à partir d'une histoire réelle et la vie s'en retrouve impactée, en gros. Et en fait, Histoire parallèle, ça le fait de manière beaucoup plus délicate, je trouve. Alors que là, il arrive avec ses gros sabots. Juste, ses sabots sont colorés et c'est fun à regarder, mais... ça, c'est... Ouais, voilà, c'est Gucci. C'est... Enfin, vraiment, en fait, c'est très, très éloigné, quoi. Enfin, je... Pff, ouais. Et en fait, je comprends pas pourquoi on a descendu autant Histoire parallèle. Enfin, en fait, je trouve que, justement, le film de Sorio Hagen et le Almodovar nous montrent à quel point, finalement, Histoire parallèle est bien et à quel point c'est beaucoup plus compliqué de gérer ce sujet-là de manière fine et... Je dirais peut-être pas délicate parce que c'est pas vraiment délicat, Histoire parallèle, mais de manière un peu plus intelligente que ça, en fait.
Vendredi dernier, ça semble si loin déjà, tout va si vite. Pour ta première séance, Claire, on est allé voir tous les deux sous les chapiteaux de la salle Agnès Varda, qui jouxte le Palais des Festivals. Histoire parallèle, donc, le nouveau film du réalisateur iranien Asghar Farhadi, auteur de About Ellie ou d'Une séparation. C'est une séparation qui était d'ailleurs un film qui avait connu un succès immense en son temps, jusqu'à être nommé aux Oscars. Loin de Téhéran ou du nord de l'Iran, on est ici dans le Faubourg Saint-Martin, à Paris, où Isabelle Huppert, incarne Sylvie, une romancière espionnant ses voisins d'en face, donc un studio de bruitage, depuis la fenêtre de son grand appartement qu'elle doit bientôt quitter.
Et cet espionnage, eh bien, il lui sert à trouver de la matière à partir de laquelle écrire son nouveau roman, qui est aussi une espèce d'autofiction sur sa vie et le statut que son père a eu de voyeur depuis ce même appartement, en train d'observer l'appartement d'en face où sa femme le trompait. Bref, pour l'aider à débarrasser cet appartement et puis à déménager, eh bien, la nièce de Sylvie lui recrute un inconnu rencontré par hasard dans le métro. Il est incarné par Adam Bessa, qui avait été remarqué dans le cinéma français dans Les Fantômes il y a 2 ans. Ce personnage s'intéresse beaucoup au roman de Sylvie, au point de vouloir le reprendre quand celle-ci l'abandonne, et même de s'immiscer dans la vie de ses fameux voisins d'en face et de leur faire part de ce qu'a imaginé Sylvie. Plus ou moins directement. Les relations fantasmatiques débordent et contaminent alors la réalité de ces gens, 3 bruitistes, je l'ai dit, incarnés par Virginie Efira, Vincent Cassel et Pierre Ninet. Si on ajoute à ça un bref caméo de Catherine Deneuve dans le film, on a vite fait d'obtenir une fine équipe de X-Men du cinéma français, et dans cette métaphore, les Avengers sont la bande à Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Bref, la majorité des retours sur ce film, de la presse aux communautés plus informelles de réseaux comme Letterboxd, a fait montre d'une vraie déception, voire d'un profond agacement devant ce film. Hommage que je trouve personnellement ludique et très plaisant au réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski, à qui Histoire parallèle emprunte de loin la trame d'un des épisodes de son décalogue. Alors, j'ai vu qu'un seul film de Kieslowski, Rouge, mais dans Rouge comme dans Histoire parallèle, tout se joue sur des hasards à la fois absolument improbables et visiblement fictionnels, et auxquels, donc, dans le même temps, on va se surprendre à croire. Tout comme chez Kieslowski aussi, un malaise profond dans le film, sans qu'on puisse précisément en identifier la source, jusqu'à atteindre une résolution, une fin qui n'a rien vraiment de grandiose et qui semble presque inachevée. Alors des défauts, le film en a, bien sûr, mais est-ce qu'il méritait le mépris ou l'accueil très très froid qu'il a reçu? J'en suis pas certain. Claire, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté?
Eh ben moi j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt chouette. J'avais très peur en fait, à vrai dire, au départ. Très peur parce que le casting, je commence à en avoir un peu marre. Quand bien même, moi personnellement j'aime beaucoup Isabelle Huppert, donc j'étais contente de la voir, mais c'est vrai que les autres, j'avais un petit doute. Et j'attendais ce film avec impatience parce que donc, j'avais vu About Ellie, que j'avais trouvé superbe, et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner avec un casting comme ça franco-français, et c'était très très chouette. Alors je sais pas si le fait que ce soit ma première séance pour la première fois au Festival de Cannes a un peu influencé mon avis, c'est possible, mais il n'empêche qu'en fait j'ai retrouvé pas mal de choses du réalisateur dans ce film-ci, et ça c'était vraiment une très très belle surprise parce que c'est jamais forcément évident de travailler dans une autre culture, etc. D'autant plus que là c'est vraiment, il a vraiment fait ce choix de se mettre dans Paris. Alors oui, c'est très parisien, oui c'est des artistes, c'est vraiment un milieu particulier, mais c'est un choix qui est fait. Et à partir du moment où ce choix est vraiment fait et comment dire, assumé, ouais, exactement, merci. Tout de suite, ça pose beaucoup moins un problème. Et bref, enfin, franchement, très très belle surprise finalement.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avoue que pareil comme toi, je craignais un petit peu la séance de ce film-ci parce que la bande-annonce est très mal faite et donne vraiment l'impression d'une espèce de mélodrame un peu mièvre et un peu simple. Ou déjà vu en tout cas, ce qui n'est en fait pas du tout le cas, c'est-à-dire que le film est très long, il fait 2h, 2h10, d'une part on ne les voit pas passer, d'autre part, moi j'ai été constamment surpris en fait par les directions dans lesquelles le film allait s'engouffrer. Surpris n'est peut-être pas le mot, en tout cas, maintenant que je le dis, mais en tout cas assez intéressé, jamais ennuyé par une direction tout à fait prévisible. Le personnage qui est joué par Adam Bessa et qui s'appelle Adam d'ailleurs, prend des décisions assez arbitraires, assez étonnantes en fait, même pour nous spectateurs, spectatrices, parce que dans les choix qu'il fait, et les personnages sont également très bien écrit dans les partitions qu'ils ont chacun à jouer, finalement. Certes, ce sont des figures qui, n'ont pas une réalité assez... que je trouve qu'ils n'ont pas un ancrage dans le réel très très profond. C'est un peu ce que tu disais à l'instant en parlant d'un milieu très particulier. Mais chacun voilà, joue un rôle dans un cadre extrêmement précis. C'est aussi ça, quand tu parles de, d'un cadre auquel il se tient, c'est ce choix bah oui, d'un film enchâssé, de récit dans le récit, mais de récit dans le récit dans le récit aussi. Le choix de mettre en scène aussi des parties du roman qu'écrit Isabelle Huppert, ou dans la première partie du film, que je trouve pour le coup plus discutable comme choix, ce choix de les représenter, mais qui s'entend aussi. Bref, donc dans cette machine qui fonctionne assez bien, l'écriture des personnages, moi, m'a vraiment convaincu, et c'est le scénario que j'en garde plus qu'autre chose. Les acteurs, en revanche, bah j'ai vraiment eu du mal hein, sur certains d'entre eux. Alors j'aime beaucoup Isabelle Huppert, et là elle est vraiment très bien dans ce rôle d'écrivaine un peu fantasque. Un peu complètement en décalage, etc. Et j'ai trouvé Virginie Efira aussi très bien, donc au centre des tensions très masculines de ce studio de bruitage. Les acteurs masculins, Adam Bessa mis en dehors, donc ce qui nous laisse Pierre Niney et Vincent Cassel, c'est un petit peu plus douloureux, c'est-à-dire qu'ils sortent pas vraiment de ce qu'ils ont l'habitude de jouer eux-mêmes, c'est-à-dire Pierre Niney, on a l'impression que son rôle faussement ingénu, on l'a vu, ou bien dans sa série Fiasco, ou bien dans d'autres rôles. Il reprend des intonations parfois qu'il a dans des interviews type podcast, qui sortent complètement du personnage. Et Vincent Cassel adopte la voix ténébreuse et un peu faussement mystérieuse qu'il a parfois, et qui, oui, semble moins être en adéquation avec l'histoire elle-même.
Oui, je te rejoins totalement pour Pierre Niney et Vincent Cassel qui en fait, disons, étaient assez irréguliers dans leur jeu, enfin inégaux, alors que c'était absolument pas le cas pour Isabelle Huppert et Virginie Efira, qui, elles, pour le coup, tenaient vraiment la ligne de leur personnage, creusaient, etc. Et en fait, donc on a cette double narration avec donc des doublons de personnages qui sont hyper intéressants, et c'est vrai que pour les deux hommes on le voit beaucoup moins, enfin du moins c'est moins tranché, oui, en fait on a vraiment, enfin dans les choses que je retiendrai en fait du film, ça serait vraiment ce principe de cette caméra qui est un peu posée et qui épie exactement comme ces personnages le font, mais elle le fait avec beaucoup plus de tendresse, je trouve, pour les personnages et puis pour la narration et pour cette fiction qui se prend pas pour plus que ce qu'elle n'est. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien justement chez ce réalisateur. Enfin en tout cas, vraiment, encore une fois, j'ai juste vu Batelli, mais je trouve que là aussi on retrouve cette façon qu'il a de dessiner vraiment un drame. Alors ça l'était beaucoup plus dans le cas de Batelli, mais là, alors c'est un peu compliqué sans spoiler, mais il y a un passage que moi j'ai trouvé particulièrement intelligent et très bien fait. Faut y aller pour pour voir, enfin pour comprendre ce que je vais dire, parce que sinon c'est vraiment un peu dommage que je détaille plus. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais je pense vraiment que, enfin là, vraiment, quand il y a eu cette scène, je me suis dit, ok, c'est vraiment un bon réalisateur. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'on garde du film. C'est vraiment plus le réalisateur et le fait qu'il arrive à embarquer comme ça toute une équipe vers une histoire qu'il a écrite, qu'il a bien ficelée, en fait, sans trop nous montrer non plus les ficelles. Et voilà, et donc c'est super.
Oui, en fait, ce qui est ça qui se sent, pour le coup, c'est cette espèce de d'hybridation entre ce qu'il apporte de ses films précédents et un monde du cinéma français qui sort un petit peu de sa zone de confort pour la plupart. Mais ce qui est effectivement assez intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le travail de la caméra, c'est-à-dire que bon, j'ai parlé du scénario et effectivement il est assez virtuose, mais la caméra, elle fait des choses assez folles, la façon dont elle s'approprie l'appartement, dont en fait elle est extrêmement mobile, je trouve, quasiment comme si effectivement on avait cette présence alors disons fantomatique, mais sans du tout le côté de hantise, hein, vraiment juste d'un corps en tout cas dans les appartements où se passe le film, et qui effectivement redoublerait d'un troisième niveau le voyeurisme, le double mouvement de voyeurisme qui se met en place dans le film. Et ça, c'est caractérisé à un moment par une scène qui est assez qu'on pourrait trouver assez lourde symboliquement ou allégoriquement, mais qui finalement est assez jolie en termes de mise en scène. Donc on a Adam qui surveille au télescope les voisins d'en face, et on le voit à travers un trou de serrure qui est depuis le cinéma des premiers temps l'image même du voyeurisme. Et en fait, ce trou de serrure, c'est le point de vue d'Isabelle Huppert qui regarde Adam en train de regarder les voisins d'en face, et en fait finalement nous-mêmes nous trouvons dans la position de regarder Isabelle Huppert qui regarde Adam. Et cet enchâssement là qui est vraiment le principe narratif du film est sincèrement réjouissant. Et au-delà de effectivement cette scène à laquelle tu penses, et je crois que je vois de laquelle tu parles, qui est particulièrement bien traité, et qui va dans ce sens-là de la caméra qui reste à une place à chaque fois toujours juste, qui ne donne pas dans le voyeurisme quand on pourrait, elle reste en retrait, et ça va avec une très bonne écriture des personnages sur un arc qui implique des relations sexuelles. Mais franchement non, Histoire parallèle, c'est pas un film, je dirais, particulièrement marquant. Je pense pas que ce soit le film le plus riche du festival, mais c'est clairement pas le moins intéressant, et c'est clairement pas celui qui mérite le moins sa place en compétition.
Oui, et juste pour conclure et rajouter une petite idée, c'est parce qu'en fait, dans beaucoup de critiques, j'ai entendu... d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai entendue à la sortie du film. C'est quelqu'un qui disait « Oh là là, j'ai trouvé ça très caricatural », et en fait, je trouve pas du tout. Enfin, en fait, c'est un peu étrange parce que je vois très bien ce que la personne voulait dire, surtout avec le personnage d'Isabelle Huppert, qui est vraiment cet artiste hyper compliqué, un peu foutraque, avec ses vernis différents, enfin de toutes les couleurs, ses cheveux dans tous les sens et tout machin. Mais dans la façon dont est écrite l'intériorité du personnage, je trouve que pour le coup, ça l'est beaucoup beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer en lisant le synopsis. Ou en regardant la bande-annonce qui était qui faisait un peu peur, ou l'affiche, ou le casting, ou enfin en fait il y a vraiment cette, en fait il donne un petit coup de fraîcheur, je trouve, au cinéma franco-français dont on a d'habitude, à ces comédies un peu françaises, et là il y a un petit truc en plus, et je pense que c'est vraiment le réalisateur.
Merci beaucoup, et on passe au troisième film de ce programme, Fatherland, qui d'ailleurs va peut-être offrir un dépassement par la troisième partie de notre dissertation banale de philo banale sur le sujet « L'art peut-il changer la vie ?». Nous verrons ici en quoi l'art se fait le moyen de dépassement de nos individualités personnelles pour atteindre une tentative de reconstruction commune. Bon, je force un peu le trait, mais on pourrait presque assumer la progression de cette émission ainsi, finalement, avec ce troisième film qui nous emmène donc suivre Thomas Mann, qui est incarné par Hans Tischler à l'écran, et sa fille Erika, Sandra Hüller, sur les routes allemandes de la RFA à Francfort, puis de la RDA à Weimar, pour y recevoir à chaque fois un prix Goethe, et aussi être courtisé par les puissances d'occupation, respectivement américaines et soviétiques, qui désirent en fait que ce grand écrivain apporte une légitimité culturelle, artistique, à leur projet politique absurde de partition de l'Allemagne. Dans le même temps, le père et sa fille doivent gérer, outre le deuil de leur Heimat, de leur foyer, enfin ce terme vraiment intraduisible et très allemand, donc outre ce deuil-ci, ils doivent gérer un deuil beaucoup plus intime, celui de Klaus Mann, frère d'Erika et fils de Thomas, qui disparaît au milieu du film après être apparu dans la première séquence, qui est une des séquences d'ouverture les plus fortes de ce festival, à mon avis. Alors, j'expliquerai dans l'émission pourquoi c'est pour moi, aujourd'hui, à J+6, le meilleur film du festival. Mais sans plus attendre, après ce résumé sommaire, je vous laisse la parole. Je rappelle simplement que ce film est réalisé par Pavel Pavlikovski, qui n'était pas revenu en salle depuis Cold War, il y a 8 ans, il me semble. Cold War, qui avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes et qui, à titre personnel, m'avait... Mais c'était...
il y a très longtemps, j'étais jeune et stupide, mais je n'ai pas revu depuis, donc je vais rester sur cet avis-là, qui m'avait profondément ennuyé, en tout cas, dont les personnages ne m'avaient ni marqué et auxquels je ne m'étais pas plus, pas plus attaché que ça. Rien de cela ici, bien au contraire, mais Aubry, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce Fatherland de Pavel Pavlikovski, dont la photo en noir et blanc est signée, comme Ida et Cold War du précédent Pavel, par Lucas Zal, également chef opérateur de la zone d'intérêt, dans un format 4 tiers, et donc en noir et blanc, je le disais, assez sublime.
Yavol, écoute, la transition est toute trouvée, parce que, effectivement, moi, j'ai trouvé, alors j'ai beaucoup aimé le film, peut-être que je suis un chouille moins emballé que toi, Louis, mais j'ai quand même beaucoup aimé le film. Et surtout, en fait, il y a pas mal de choses qui m'ont fait, qui m'ont évoqué la zone d'intérêt, on aura l'occasion d'y revenir. Je trouve qu'en fait c'est un très très beau film dans son côté réduit et dans tout ce qui fait passer en fait dans ce côté réduit. C'est-à-dire qu'il y a très peu il y a quasiment rien en trop et en fait avec des ruines il évoque énormément. En fait ouais, je trouve que ce qui fait très très beau c'est en fait, il se construit autour de la forme du tombeau, celui de Klaus Mann, on l'a dit, et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de complètement central dans le film, alors que c'est que la première séquence, quoi. C'est un peu différent de ça, mais bref. Mais disons qu'on le voit en tout cas que dans la première séquence. Extraordinaire August Diehl au passage. Le film en gros fait tombeau, et il fait tombeau pour parler de l'histoire, de cette histoire-là, et en perspective de toutes les années qui nous en séparent. En fait, je trouve que c'est très beau du coup d'adopter cette forme-là pour parler d'un monde qui s'achève, qui est déjà mort en même temps que ce personnage de Klaus Mann, où en fait l'administration ne fait qu'embaumer tout ce qu'elle a sous les mains et essaye en fait tant bien que mal de préserver une société de façade pour mieux dissimuler tous les déchirements dont tu as pu parler, Louis, et en l'occurrence celui de l'arrachement d'un lien à la Terre et à ce fameux Heimat. Donc voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Fatherland. Il y a de très très belles scènes, de très beaux moments de bravoure dedans, la musique est sublime, la photo est sublime, et comme dit, on pourra reparler de la photo, et enfin plus particulièrement en fait des choix de cadrage, parce que pour moi là où il y a aussi des rapports esthétiques, politiques, en termes de sens, tout ce qu'on veut, avec la zone d'intérêt, bref, c'est passionnant.
Et bah sans beaucoup de surprises, je suis tout à fait d'accord avec vous. j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film, déjà on peut saluer, c'est un film qui est très court, qui fait juste 1h30, un peu moins d'1h30, et je trouve que c'est, oui, voilà, c'est très appréciable, mais c'est surtout que c'est une très grande force que d'arriver à dire autant en si peu de temps, quand il y en a d'autres qui disent aussi peu en beaucoup plus de temps en fait. Oui, non, on verra plus tard pour tout ça pour dire que le film donc se tient hyper bien, il est très très beau. Je trouve que c'est, en fait, c'est vraiment, en y réfléchissant, un des plus beaux films sur le deuil que j'ai vu, je crois. D'autant plus qu'il décline vraiment le deuil un peu de toutes les façons, et c'est à la fois un deuil collectif et un deuil hyper individuel, mais c'est aussi un deuil un peu carrément familial. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment plus qu'un motif, je trouve que c'est vraiment ça que le film raconte, et que bien sûr l'art dedans il joue un très gros rôle, mais ça devient presque secondaire pour moi, je trouve. Enfin, en tout cas, en termes de scénario, ça arrive après. Le duo d'acteurs est magnifique. Et vraiment, enfin, tout, la scène finale est sublime. Et je pense que pour le coup, elle restera dans notre tête assez longtemps. Là où j'ai peut-être un micro doute, mais c'est vraiment pour pinailler, c'est que je me demande s'il n'est pas justement presque trop parfait, en fait. Que ça manque. En fait, il est tellement propre, tellement beau, et il y a cette froideur de la guerre froide, de l'Allemagne blessée comme ça, de ces Allemands maintenant américains qui, qui sont cette espèce de zone grise, et le film est aussi dans cette zone grise, fait que nous, on est vraiment à distance, et on rentre dans l'émotion à la toute fin, parce que juste ça nous attrape comme ça, et en fait le film se termine dans cette prise en vol, je dirais, et il se finit un chouïa trop tôt pour moi. Enfin, en tout cas, personnellement.
Oui, donc pour merci à tous les deux. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Claire, je suis tout à fait d'accord. Moi, la scène de fin, elle m'a complètement emporté, ravagé même, j'irais jusque-là, à la fin de la projection. Pour moi, c'est la plus belle scène de fin du festival jusqu'à présent. Et le fait que, justement, l'émotion qui a été contenue jusqu'à présent surgisse de diverses façons. Je vais revenir sur ce qui se passe dans cette scène de fin sans trop la spoiler, mais plus tard dans ces échanges. Mais ne serait-ce que dans le dernier plan, les deux personnages sont assis immobiles sur un banc, et soudainement, eh bien, il y en a un des deux qui va s'effondrer et prendre le bras de l'autre et fondre en larmes. Et rien que d'y repenser, sincèrement, j'en ai des frissons, parce que c'est très très sobre, ça n'est pas du tout pathétique ni larmoyant, et pourtant ça fonctionne. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est son rapport à une certaine histoire du cinéma, et notamment du cinéma allemand. Alors, Pawlikowski est polonais, mais il tourne en Allemagne avec des acteurs, et actrices allemands. J'ai vraiment, moi, été très intéressé par l'héritage, la filiation dans laquelle il se situe, avec un genre très particulier du cinéma allemand, qui est ce qu'on appelle le Trümmer film, le film de décombre. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma allemand est peu à peu revenu, en fait, à la vie dans les ruines du pays, très littéralement. Et en fait, se rendre dans les décombres et les filmer était sans doute le meilleur moyen de se confronter au passé tout frais de la politique nazie du pays, dont les conséquences et la culpabilité étaient sans cesse rappelées par ce décor inévitable, en fait, qui encadrait complètement des personnages. Et en fait, il y a ce principe de culpabilité des films de décombres, des trucs filmeux, dans Fatherland. Et d'ailleurs, en conférence de presse, Sandra Hüller, elle a dit assez explicitement, et dans un moment assez beau, que voilà, elle sentait la culpabilité, I feel the guilt, elle a dit, tous les jours, mais qu'elle était, ça l'ennuyait pas pour autant, I don't get bored, elle a ajouté, et elle a même continuer en disant qu'il fallait cette culpabilité pour pouvoir, au jour le jour, agir correctement. Et donc, en fait, Pawlikowski, ce qui est super passionnant, c'est qu'il signe avec Fatherland un très puissant Trümmer film anachronique, en reprenant les codes esthétiques de ce genre, en montrant beaucoup de ruines, donc, mais aussi en faisant le choix de décors d'hôtels très transitoires, donc des lieux transitoires qui occupent une bonne partie du film. Tout en nourrissant ses codes esthétiques de son propre imaginaire, et en racontant une histoire a priori bien singulière, là où les films de l'époque racontaient l'histoire de parfaits inconnus, où tous auraient pu se retrouver, puisqu'a priori Thomas Mann et sa fille ne sont pas c'est pas tout le monde, quoi. Et pourtant, et c'est ça qui, là je te rejoins, Claire, c'est que Thomas et Erika, ils sont marqués par un deuil extrêmement intime, mais en même temps, qui fait de ce film un film magnifique sur le deuil. C'est, d'après Pawlikowski en conférence de presse toujours, son film le plus personnel qu'il ait réalisé jusqu'à présent. Il a adapté l'histoire, je disais tout à l'heure, en forme de biopic. C'est pas vraiment très précisément factuel, c'est-à-dire que Klaus Mann est mort 4 mois avant le voyage en Allemagne. Il y avait aussi la femme de Thomas Mann dans ce voyage, et pas sa fille, ou en tout cas il y avait la femme de Thomas Mann, là elle n'est pas présente parce qu'elle n'était pas intéressante dramaturgiquement apparemment. Et donc voilà, le film, on sent une patte très très singulière du réalisateur derrière. Et il fait de Thomas et Erika, des personnages de Heimkehrer. Donc, le Heimkehrer, c'est celui qui retourne chez lui. Encore un mot tout à fait intraduisible. Et comme souvent le sont les protagonistes, de ces fameux films de décombres dans les années 40, Thomas et Erika, marqués par un deuil, se retrouvent étrangers dans leur propre patrie, perdus dans les cadres du film, cadre d'une sobriété souvent dévastatrice,
où une ouverture rectangulaire, une porte, un miroir, une fenêtre, fonctionne moins comme une échappée vers l'extérieur que comme un vide, une aspiration vers le néant de l'histoire. Et ainsi, perdus, baladés de lieu en lieu, envahis de ce deuil dont ils sont incapables de parler, les voilà qui, à la fin, moi, nous bouleversent sans vraiment crier garde et atteignent à une forme d'universalité dont pourtant je me méfie assez souvent au cinéma, mais j'en reparlerai tout à l'heure.
Le film fait passer beaucoup de choses avec très peu, et surtout par rapport à ce qu'on pouvait dire du Sorogoyen tout à l'heure, il fait passer beaucoup en parlant peu, en témoigne cette dernière scène effectivement, qui est pas si peu larmoyante que ça, hein. Quand même là je serais pas d'accord, mais elle est très très bien, je l'adore cette dernière scène.
Quand je dis larmoyante, pour moi c'est qu'elle est vraiment pas tire-larme, et pour toi elle l'est.
Un peu, okay. Un peu pour moi, mais c'est positif, hein. J'aime bien les scènes tire-larmes, moi ça me pose pas, j'adore pleurer au cinéma, y a pas de souci. Non mais en revanche oui, ce qui est très chouette c'est, je trouve, la manière dont en fait il dépeint un monde qui est déjà mort d'emblée, c'est-à-dire que on l'a dit, il y a cette scène avec Klaus Mann au début, sa mort sera communiquée plus tard dans le film en fait, hors champ, hors film presque, et pourtant bah en fait dès la toute première seconde du film tout est déjà fini, tout est déjà mort, c'est-à-dire que même Klaus Mann dans sa chambre au téléphone il est déjà cadavérique, et il parle presque déjà au passé, en fait. Pour moi, ça définit un peu ce qu'est ce Fatherland. C'est-à-dire que c'est un truc où on, comme je disais, enfin, dans cette histoire d'embaumement et de dissimulation, où en fait, on fait semblant que les choses ont encore un sens ou que les choses sont encore vivantes alors qu'elles ne le sont plus vraiment, en tout cas dans ce qui nous est montré. Et là, du coup, ça fait sens avec le côté Trümmer Film, enfin, en tout cas, avec les ruines. C'est qu'on ne nous montre pas... On ne nous montre pas une perspective de reconstruction, un avenir quelconque ou quoi, on nous montre vraiment juste des ruines, et ça se traduit dans la mise en scène, parce que je faisais le lien avec la zone d'intérêt, il y a un truc très spécifique dans les cadres de la zone d'intérêt, c'est le vide que Tzal et Glazer, merci, le vide qui ménage dans l'espace des cadres. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des jeux de perspectives assez étranges, où très souvent, vous allez avoir énormément de vide dans le cadre, les personnages dans un coin ou quoi, et en fait, le vide, c'est pas une perspective, c'est une fausse perspective, c'est-à-dire que le vide il est créé par un, il va vers un mur ou un truc comme ça, et c'est des points de fuite en fait qui n'existent pas, c'est des espèces d'espaces impossibles, et juste en fait ça crée des espèces de trous noirs littéralement dans la structure du plan, où en fait le regard est aspiré par ces espaces de vide, et avec et en fait c'est des espaces de vide qui aspirent à la fois le regard et les personnages qui se trouvent à ce moment-là dans le cadre, et ça se retrouve dans deux plans spécifiquement de Fatherland. Le premier, c'est celui avec Sandra Hüller qui est au téléphone et un miroir à côté. Donc pour le coup, le miroir en fait crée une brèche dans le plan, c'est-à-dire qu'il renvoie un ailleurs et du coup il crée un trou littéralement qui aspire le personnage et le regard, et qui peut rappeler à certains égards un des derniers plans de la zone d'intérêt où on voyait Rudolf Höss dans les couloirs d'un bâtiment allemand complètement déréalisé qui ressemblait à un gouffre, où là pour le coup le trou dans le plan était littéralisé. Et le deuxième plan qui est pareil, une des meilleures séquences du film aussi, une des meilleures séquences du festival jusque-là, c'est un plan fixe dans une chambre d'hôtel où se trouvent Erika et Thomas Mann. Chambre d'hôtel dans laquelle fait irruption par une porte qui est centrée dans le plan. Donc le personnage entre en fait par ce trou dans le plan littéralement. Fait irruption un dissident politique qui en gros vient supplier les Mann de porter une voix critique. Et en fait, il se trouve qu'il va repartir par le même endroit et il va disparaître dans le couloir, c'est-à-dire là où on ne le voit pas. Et en fait, cette porte qui reste ouverte va littéralement créer un appel d'air dans le plan. Et pareil, cette même logique d'espace de vide.
Il disparaît parce qu'il est emporté, faut le préciser, par des agents de ce qui n'est pas encore la Stasi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bref, et en fait, ça crée un truc, je trouve, passionnant dans ce que raconte visuellement le film. C'est-à-dire que, bon, en plus de toutes ces ruines qu'on voit de façon évidente, du côté mort, du côté... de la supercherie des discours de Thomas Mann, de tout ce côté, on fait ça pour rien, en fait, il y a un truc où... Il y a cette tentation du vide qui apparaît constamment dans la manière qu'a le film de raconter son histoire à l'image, et qui trouve une forme de résolution, ou en tout cas d'ouverture alternative, dans cette dernière séquence où les personnages se permettent de regarder ailleurs, de regarder une ouverture qui est bien dans leur espace à eux, et surtout qui en fait au milieu de cet espace de mort et de faux semblants de vie se mettent à retrouver une vive émotion effectivement et un semblant de vie dans ces notes de musique qui traînent autour d'eux.
Je trouve que le film donc, ne dit jamais vraiment, enfin oui, ne dit pas ce qu'il faut qu'on pense, ne dit pas ce qu'il faut qu'on ressente, tout comme il ne donne pas de réponse. Et en fait, l'histoire a déjà donné une réponse en fait. Et je crois que j'aime bien, enfin c'est une forme d'humilité en quelque sorte que de faire ce qui pourrait être un peu une sorte de biopic, enfin de forme un peu, je sais pas comment dire, biopisée, bref. De laisser autant de place à l'histoire, à la vraie histoire. Et que le film en fait fonctionne, je trouve, comme un écho, enfin vraiment comme un écho. Et sans ça qu'il est très puissant, je pense. Et qu'il dépasse. Enfin, quand je disais qu'il était trop parfait, en fait, c'est encore une opinion avec laquelle je sais pas tout à fait si je vais la garder très longtemps. C'est parce que je crois que pendant la séance, cette distance qu'on a avec le film m'a un peu gênée. Tout comme, en fait, avec Cold War, j'avais eu aussi un petit peu ce problème, mais un peu moins parce que c'est quand même une histoire d'amour, donc on a moins ce souci, disons. Là, c'est vraiment très très froid, quoi. C'est la politique, c'est de l'histoire, et puis c'est de l'histoire qu'on connaît en plus, donc il n'y a même pas ce truc de la curiosité un peu naïve. Et pour autant, en fait, plus j'y repense, plus je me dis que le film a cette force-là que d'avoir, en fait, à la fois beaucoup d'espoir et en même temps vraiment aucun espoir du tout. Et en fait, c'est beaucoup ça. Il oscille énormément entre ce truc d'une liberté totale, parce que finalement, eux ont cette liberté que tous les autres n'ont pas. Et en même temps, ils sont encore plus coincés presque que les autres, et ainsi de suite. Et c'est fait vraiment avec délicatesse, en fait. Et je trouve ça très, très chouette. Et d'ailleurs, c'est pour le réalisateur, encore une fois, là aussi, que je voulais voir ce film. Et c'est un point commun qui là je trouve avec Histoire parallèle, ce truc d'être vraiment à la juste place, comme tu disais, et je pense que là il l'est aussi, et il l'est éthiquement également, dans un sujet qui est quand même un peu, enfin facilement glissant, quoi.
Oui, tout à fait. Il arrive à ne jamais être ni maladroit, ni gênant, tout en, comme tu le disais, ne donnant pas de ligne, et peut-être parce qu'il ne donne pas de ligne, de piste de lecture, de grille de lecture, de feuille de route qu'on devrait suivre, nous, en tant que spectateur. Et tu parlais de la question de l'espoir, qui a à la fois beaucoup et qui a à la fois pas du tout. Moi, j'ai envie de croire qu'il y en a. J'ai envie de croire qu'il y en a par cette fameuse scène de fin, et c'est en ça qu'à nouveau ça rejoint le... Enfin, c'est une espèce de relecture à la sauce 2026 des films de décombres des années 40. C'est que les films de ruines, à l'inverse des films qui ont été réalisés dans des ruines reconstituées au cours du XXe siècle, dans les années 40, eh bien, il y a forcément un espoir, une espérance derrière. C'est-à-dire que la ruine, elle a un double pôle à la fois rétrospectif qui renvoie au passé tout à fait révolu, tout à fait terminé, et prospectif qui indique que de toute façon cet état de ruine ne peut pas durer et qu'il va y avoir quelque chose de reconstruit par-dessus. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les films des années 40. Et là, moi, ce que je trouve très 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 fort dans ce film, c'est que l'espoir qu'il propose, il passe par ce fameux, par l'art en fait, par ce fameux rapport à l'art, et par la forme d'universel que ce rapport à l'art permet. Et pourtant, Dieu sait que l'idée d'un art transcendant et cathartique, moi, ça a vite fait de m'énerver. Je pense notamment à la lourdeur kantienne de la fin de Hamlet, cette espèce d'universalité subjective où tout le monde ressent la même chose derrière Agnès. Bref, on va pas refaire le débat sur Hamlet, là, il se passe sincèrement quelque chose. Et quand Aubry t'a dit il y a quelques notes de musique qui traînent autour d'eux, je trouve que c'est bien plus que ça. Je trouve que le film trouve intégralement son sens dans c'est comme ça que je l'ai ressenti, dans la mélodie à l'orgue qu'on entend, qui est une mélodie extrêmement simple de Jean-Sébastien Bach, qui est jouée sur un orgue cassé dans une église en ruine. Et en fait, ce que là, ça prouve, dans un film qui a un rapport assez contrarié à la musique, il y a une scène assez belle et en même temps assez terrifiante où Erika
crie à des soldats allemands ivres qui chantent une chanson nazie en fait dans les rues, parlant de viol de jeunes filles polonaises en fait, hein, globalement, de se taire. Il y a un passage où les petits-fils ou les petits-fils plus probablement de Richard Wagner demandent à Thomas Mann d'intercéder en faveur de la mémoire de leur grand-père pour relancer le festival de Bayreuth. Donc il y a tout un tas de trucs et en fait, eh bien, je trouve que là, cette dernière scène, elle rappelle quoi que la que la musique, peut-être de tous les arts, elle ne passera jamais. Il y a une différence avec les discours de Mann qui parfois qui ont des formules très belles et qui ne sont pas à rejeter en bloc fondamentalement. En tout cas, c'est quand il en a parlé, Pawlikowski, et pour lui, il y avait clairement des choses à prendre dedans et qu'il s'est inspiré de ses discours pour faire son film et pour construire son propre discours dans le film, et je trouve moi-même ces discours assez beaux, mais le problème c'est qu'ils montrent qu'ils n'ont eu aucun effet, aucune valeur, en dépit d'être très bien construits, parce qu'on a des contre-champs assez fabuleux, donc dans les deux théâtres ou églises où il prononce son discours de réception des deux prix Goethe communistes et de la RFA. Juste des visages parfaitement insensibles, tous mis côte à côte, qui ont presque un côté très angoissant, qui ne réagissent pas du tout aux formules magnifiques de Goethe que commente et que cite Mann, ou aux formules magnifiques qu'a écrites et que prononce Mann. Les gens applaudissent à la fin par convention, et il n'y a aucune réaction au discours, aux mots littéraires d'un homme qui est pourtant, a priori, prix Nobel, etc., etc. Et donc là, on est en plein dans l'impuissance de l'art. Et en fait, le film, eh ben, il parvient, mais l'air de rien, et sans t'avoir dit auparavant qu'on va faire un film sur la puissance de la musique ou sur la puissance d'autre chose, eh bien, que tout ça n'est pas complètement vain. Et rien que pour ça, c'est fabuleux, parce que voilà, on est très loin des oripeaux d'un discours longuement préparé, longuement écrit par Mann, qui ne refuse d'y intégrer des modifications in extremis. Hein, c'est la scène que tu citais, Aubry. Là, ce sont en gros deux techniciens qui essayent de réparer un orgue cassé dans une église en ruine. Et la première chose qu'il trouve à jouer, c'est... Et vraiment, j'ai des frissons rien que d'en reparler. C'est peut-être parce qu'il est très tard quand on enregistre cette émission et que... Mais c'est bouleversant. La première chose qu'il trouve à jouer, c'est une mélodie en mode majeur hyper simple de Bach. Et là, l'effet, il est direct, quoi, sur les gens qui l'écoutent. Ça n'a rien à voir avec les discours et c'est magnifique.
Là où je nuancerais peut-être un peu, parce que enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, c'est, alors oui, je reformulerai ce que j'ai dit tout à l'heure sur les quelques notes de musique qui les entourent, on va dire que c'était pour la formule. Ce que je voulais dire par là, c'est plus qu'en fait, je trouve que tout le film répond à cette logique de vide dans la construction des plans, et qu'à la fin, en fait, la réponse qui en fait crée cet élan d'espoir qui n'existe nulle part ailleurs dans le film, je trouve... la réponse qui est donnée à ce vide spatial, visuel, etc., c'est en fait le fait que le plan se remplit par le son, par la musique, et que d'un coup, en fait, on ait un cadre sur les personnages, on n'a plus de vide à l'espace parce que la musique aussi vient en fait le remplir, et disons que c'est ça que je voulais dire, quoi. Donc c'était pas minimisant. Pour autant, je trouve que l'espoir dans cette scène de fin et ce recours à la musique, il est pas tant dans le contenu, dans la mélodie en elle-même ou quoi, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait même pas pu être une mélodie, ça aurait marché aussi. Pour moi, il est davantage dans le geste. Si, j'insiste.
Le fait que ce soit Bach, c'est pas du tout anodin. Ça pouvait pas être autre chose, à mon avis. Ça pouvait pas être du Wagner, ça pouvait pas. Et ça fait partie du côté un peu intellectuel, quasi élitiste du film. Mais le fait que ce soit du Bach, c'est pas anodin. Et c'est ça qui les fait s'effondrer en larmes aussi. C'est-à-dire que c'est la culture allemande qui tient le coup, qui pourra continuer malgré tout ça, fait cette espèce de profession de foi, d'espoir et de vie qui est complètement contre les tendances morbides que Mann commente et identifie dans la littérature allemande. Et j'en veux pour preuve, et après j'ai plus rien à dire, la musique, elle déborde sur le générique. Le générique continue sur la même musique, comme si, eh bien, c'est exactement ce que je disais, ça ne passe pas, ça continue dans la vie après.
Disons que Oui, en vrai, enfin, oui, enfin, techniquement, t'as raison, mais je pense qu'il y a une autre lecture qui est possible et que moi je préfère, qui est cette lecture effectivement de l'importance du geste, en se disant que ce qui est important, c'est pas Bach dans cette dernière scène, c'est le fait que, enfin, pour moi, ce qui émeut Thomas Mann ou même Erika Mann là-dedans, c'est qu'en fait, il y a deux mecs en train de réparer un orgue. Et l'orgue, il est pété. L'église dans laquelle ils sont, elle est pétée. Il n'y a pas de relation entre les personnages. Ils sont là, c'est tout. Et que d'un coup, en réparant cet orgue, il y a quelques sons qui sortent d'abord, avant qu'ils jouent la mélodie, qui suffit déjà à poser un peu le truc. Et ensuite, ils finissent par jouer quelque chose. Et pour moi, c'est quasiment un geste de réponse qu'attend Thomas Mann depuis le début. Pas tant un contenu, vraiment un geste. C'est-à-dire que. Enfin, ces scènes de théâtre où il fait ses textes qui sont, oui, enfin, dans lesquels il y a des choses à apprendre et tout, mais qui sont d'un creux et d'un espèce de superficiel guindé, enfin, dont lui-même a complètement conscience. Disons qu'en fait, là où le personnage est un peu désespéré, c'est qu'il cherche même plus à provoquer une réponse parce qu'il sait que tout ce qu'on lui dit, le charabia pseudo-philosophique qu'on lui rétorque, de toute façon a un côté automatique et enfin, rien ne se passe en gros. Encore une fois, tout est un peu simulacre, dissimulation et embaumement. Et sauf dans cette scène de fin où en fait il se passe vraiment un truc, il y a quelque chose de l'ordre du geste spontané, de la réaction. Avec ce qu'on a, de faire avec ce qu'on a. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait même pu être enfin, pu ne pas être une mélodie.
Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que la nature du geste est importante. L'idée qu'il y ait de la vie d'un coup, soudainement, de l'aléatoire, de l'accidentel dans un monde mort est ultra réglé. Mais comment dire, je l'exclus pas du tout. Mais je pense que c'est pas. Il ne faut pas non plus du tout exclure l'autre côté. Enfin, j'ai vraiment une position de conciliation, en l'occurrence. Les deux me paraissent également importants et également touchants. Mais c'est vrai que du coup, la partie sur Bach et tout, et c'est une des limites du film, fait partie de son... Ouais, de son élitisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que Pavel Pavlikovski, il a un capital culturel conséquent et d'une certaine façon, j'ai un peu l'impression qu'il attend ça de ses spectateurs aussi pour apprécier intégralement tout son film. Parce que je pense que le film, on peut l'apprécier intégralement sur un plan intime et tout. Mais il y a tellement de références, tellement de réflexions. Enfin, il a mis 8 ans à le faire quand même. Alors, il a eu des galères, il voulait faire autre chose. Mais quand même, derrière... qu'il y a une intensité qui est un peu excluante, je pense aussi, à un certain moment.
Si oui, non, en fait, c'est juste que je suis en train de réaliser, alors que pourtant ça fait quand même un paquet de jours qu'on en parle de ce film, que je crois que moi je l'ai lu, enfin que je l'ai lu, bref, de manière beaucoup plus individuelle que Louis, en tout cas, toi peut-être un peu moins. Et que pour moi, cette scène de fin, c'est avant tout une scène entre un père et sa fille. Et que ça, on l'avait pas vu en fait jusqu'à présent, enfin du moins... que la fille refusait pas mal la relation avec le père et inversement, que le frère était absent, que la mère était absente aussi, qu'on a que ce duo qui fait face à ces deux pays. Enfin, il y a vraiment quelque chose de binaire et que là, on a vraiment plus la réunion des deux. Et en fait, moi, l'orgue, enfin, personnellement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est passé vraiment en second plan, en fait. Et c'est pas tant les quelques notes de musique que le fait que les gens fassent quelque chose. Et le fait que en face d'eux, des gens font des choses et la fille prend la main de son père. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a plus émue que ce truc sur l'art et tout machin. Parce que pour moi, l'art, justement, ne... l'art, là, était dans une impasse, en fait. Et que le film ne sort... Enfin, je trouve, ne sort pas tant de cette impasse-là, en fait. Il rappelle, justement, que l'art ne va pas nécessairement plus loin et que lui aussi est pris dans tout un système dans lequel... Il a finalement à la fois beaucoup de poids parce que mine de rien, le mec traverse la frontière un peu comme il veut. Et en même temps, enfin, très très peu parce que justement, ce mec qui traverse la frontière comme il veut doit quand même attendre au café parce qu'il le traverse comme il veut, mais pas tout à fait en réalité, quoi. Et cette scène de fin, pour moi, c'est... Enfin, ouais, c'est la continuité de ça, en fait.
Ce qui est beau aussi dans ce dernier plan, c'est que, bah, en fait, non seulement on a le père et la fille dans le même plan, ce qu'on a certes pas mal de fois depuis le début du film, mais peut-être pour la première fois, ils sont accordés, et en fait, ils sont accordés par ce qui se passe à ce moment-là, en l'occurrence de la musique. Je suis assez d'accord sur le côté, comment dire, enfin, l'art est pas tant, je trouve, un espoir en soi de reconstruction ou quoi, mais beaucoup plus une impasse considérée comme telle, en tout cas considérée comme... Enfin, je trouve que ça réside vraiment dans un geste plus que dans une préconception de l'art, mais bref.
Je trouve que c'est pas du tout universel, en fait. Pour moi, c'est un film qui est hyper allemand. Et moi, il m'a beaucoup touchée parce que, bon, il m'a fait penser à ma grand-mère et tout, mais je trouve que c'est vraiment l'Allemagne et ensuite l'Europe. Mais c'est vraiment... Ouais, pour moi, c'est pas du tout universel.
Je voulais juste revenir sur un truc que t'avais dit, Claire, et que j'ai trouvé très juste... quand tu avais dit qu'il laissait parler l'histoire, ou tu avais formulé un peu un truc comme ça, c'est pareil, je trouve ça très très juste, parce que en fait, je trouve que ben, moi je parlais de tombeau, en fait on pourrait aussi parler de tableau, parce que le film fonctionne beaucoup en tableau, je trouve, et justement en fait il joint le tableau au tombeau, et tous les tableaux sont morts, et c'est-à-dire qu'en fait, tout c'est, littéralement, tout c'est, le format, on va dire, de mise en scène autour de plans qu'on pourrait dire de plans tableaux, donc fixes avec pas mal de paysages ou des structures assez fixes, même ces contre-champs, en fait, tu l'as dit, ont un côté tableau, et en fait ils sont mortifères, c'est-à-dire que les personnages ils sont évidés, fantomatiques, creux, et en fait je trouve que justement ça permet au film de pas faire parler les personnages qui s'y trouvent, mais de faire parler quelque chose d'autre, de pas forcément humain, oui, des paysages, des ruines en fait, des rapports à l'espace, et au fond juste de faire parler l'histoire, ou en tout cas ce qu'elle a laissé, d'où je trouve la formulation juste. Et ouais, ça c'est un truc que je trouve très beau dans le film, ce côté. En fait, il y a un truc qui serait très gênant, c'est vraiment juste de se concentrer autour de la famille Mann pour parler quelque chose de plus grand, alors qu'au fond... comment dire, ils sont un cas très spécifique, mais justement je trouve qu'en fait par ces à côté là et ce côté faire parler l'histoire, bah, jusqu'à ce geste final et anonyme, bah, en fait le film permet de viser quelque chose de plus large que la famille Mann, en l'occurrence l'Allemagne, du coup pas forcément universel, voilà, qui fonctionne très très bien. Je voulais juste terminer là-dessus.
Et ben, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Fatherland est un des films les plus intéressants de cette compétition, puisque il nous aura beaucoup occupés aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, comme d'habitude, à Smila, Élise et Corentin, qui pour Transistor nous auront permis ce voyage à Cannes. Et puis nous, on se donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode du Comptoir du Festival. On vous emmènera sur des terrains encore bien différents.